carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Et dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Alain Pasquier, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il a été nommé le 7 novembre 2003. Bonjour Monsieur.
Bonjour Madame.
Et merci d'être venu jusqu'en notre studio. Il y a quelque temps encore, vous n'auriez eu que la Seine à traverser, puisque vous étiez au Louvre. Aujourd'hui, vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine. Mais longtemps, vous vous êtes occupé au Louvre, justement, des antiquités grecques, étrusques et romaines. Vous êtes à la fois historien de l'art et helléniste et spécialiste de sculpture et de céramique grecque. Et vous avez donné, le 15 janvier 2010, une communication devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres intitulée « Pourquoi les corées de l'Acropole sourient-elles ? » Alors les corées de l'Acropole, nous les connaissons tous et toutes, qui n'est pas allé les voir sur l'Acropole. Alors c'est avec grand plaisir que nous allons vous suivre jusqu'à Athènes, sur l'Acropole, et que nous allons vous écouter évoquer le sourire de ces gracieuses jeunes filles, exhumées, alors je l'ai appris grâce à vous, seulement dans les dernières années du 19e siècle. C'est encore assez récent finalement.
Oui, alors ces gracieuses jeunes filles de marbre, vous me disiez tout à l'heure très joliment que vous alliez me suivre sur l'Acropole. En réalité, maintenant, elles sont en contrebas de l'Acropole, puisque vous savez que le nouveau musée de l'Acropole donc, a été récemment ouvert et donc conserve toutes ces superbes statues. Alors, c'est vrai, vous avez raison de souligner ce point, la découverte de l'archaïsme grec est un phénomène relativement tardif. Ce qui est curieux, c'est que, à l'inverse des périodes historiques de l'art grec qui se sont succédées de l'archaïsme jusqu'à l'art hellénistique, en passant par l'art classique, on a l'impression que c'est l'art hellénistique qu'on a connu en premier, ensuite l'art classique et enfin l'art archaïque, c'est-à-dire
on
exactement
a remonté le temps à l'envers.
Exactement.
Voilà.
Ce sont surtout les fouilles qui ont été faites sur l'Acropole dans la dernière génération du 19e siècle qui ont découvert ces merveilles. Bon, il y avait bien eu de ci, de là, quelques découvertes qui avaient déjà été faites, bien sûr. Mais disons qu'en tout cas, pour ce qui est des statues des corées, c'est à ce moment-là qu'on les a véritablement connues.
Est-ce que cette découverte est attachée particulièrement à un nom d'archéologue renommé ou est-ce que plusieurs archéologues ont procédé à ces fouilles ?
Alors là, normalement, je devrais vous citer sans doute le nom d'un archéologue grec, mais au moment où vous me le demandez, là, son nom est en train
mais
de...
Il n'y avait pas un membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Moi,
je suis toujours
à l'affût.
C'était des fouilles... Non.
C'était des fouilles grecques.
Faites par les Grecs sur ce site éminemment grec et l'Acropole.
Bon, parfait. Alors, peut-on justement parler, M. Pasquier, d'un sourire archaïque qui serait spécifique aux artistes de l'Hellade du VIe siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que cette époque est une époque d'âge d'or?
Ce qui est sûr, c'est que si on observe l'ensemble des phénomènes de l'art grec, ce sourire n'apparaît que durant l'archaïsme. Donc, il s'attache à cette période. Alors, est-ce qu'il est spécifique, je veux dire, au milieu de tous les autres arts? Là, je ne saurais trop en juger. Mais il est vrai que le sourire grec est quelque chose qui a traversé, l'histoire de l'art, que les historiens d'art, en tout cas, ont retenu comme un phénomène assez particulier.
Qu'est-ce qu'il a de particulier? Un sourire, c'est un sourire? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de sourires? Comment est le sourire des corées? Elle sourit comment d'abord?
Alors, ce sourire, il est d'abord, extrêmement divers, et à la fois, il rassemble tous ces visages. C'est-à-dire que pratiquement toutes les corées, on peut dire d'ailleurs, à partir du moment où une corée ne sourit plus, elle n'est plus une corée.
Voilà. Mais elle ne sourit pas toutes de la même manière.
Elle ne sourit pas toutes de la même manière. Il y a des variations qui tiennent sans doute au talent, à l'humeur, à la virtuosité des sculpteurs, à ce qu'ils ont voulu exprimer. Mais, donc, ils sont à la fois éminemment différents les uns des autres, mais ils se ressemblent tous d'une certaine façon.
Voilà, alors, est-ce que c'est un grand sourire, très large, genre éclat de rire, ou est-ce que c'est un sourire très discret? Comment est ce sourire décoré?
Non, alors, le sourire des statues grecques à l'époque archaïque est un sourire que nous dirons seulement labial, c'est-à-dire on parle du sourire dentolabial, c'est-à-dire le sourire qui découvre les dents. Ça n'est absolument pas le cas.
On ne voit pas les dents.
On ne voit pas les dents, c'est simplement le travail, si je puis dire, des muscles qui entourent les lèvres, qui donc est noté par le sculpteur. Mais il n'y a pas de découverte de l'appareil dentaire. Ça.
Alors, excusez mon ignorance, mais est-ce que seules les jeunes filles sourient dans les statues? Est-ce que les jeunes garçons, les couroi, sourient aussi?
Mais non, j'ai choisi évidemment le cas des Corées pour des raisons d'annonce, si je puis dire. C'est-à-dire que annoncer un exposé en disant pourquoi les Corées de l'Acropole sourient-elles est plus attractif peut-être que de le mentionner d'autres sourires. C'est évidemment les sourires les plus gracieux, les plus agréables. Mais il y a une omniprésence du sourire dans l'expression du visage archaïque. Et ces sourires, on les découvre également sur les visages masculins. On les découvre également sur les visages de certains êtres fabuleux qui empruntent à la nature humaine, c'est-à-dire, par exemple, les sphinx. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est tellement connu qu'on parle du sourire de sphinx. Hein. Les victoires, puisque les Grecs ont eu cette heureuse idée de représenter la victoire sous la forme d'une femme ailée. Donc, là encore, c'est une figure féminine qui sourit. Mais il y a même, récemment, on a donc une petite statuette en bronze qui a été achetée, je crois, par un musée américain et qui représente un centaure en train de sourire, ce qui est assez étonnant. Le centaure est un être plutôt brutal, violent, lancé dans toutes sortes d'actions qui ne donnent, semble-t-il, pas tellement place au sourire. Eh bien voilà, vous voyez, même les centaures sourient.
Il y a même les centaures qui sourient.
Alors, je sais bien qu'il y a des bons centaures. Enfin...
Alors, si on parle en termes de trouvailles géographiques, est-ce que ces jeunes filles, parlons que des jeunes filles qui sourient, est-ce qu'on les trouve uniquement autour de l'Acropole, dans la Grèce antique, ou est-ce qu'on les trouve dans d'autres endroits du monde méditerranéen?
Non, d'abord, il faut bien souligner le fait que ce qui a été découvert sur l'Acropole n'est pas uniquement athénien ni attique. Il y a des importations, il y a eu des ex-votos qui ont été donc offerts sur l'Acropole d'Athènes, qui sont l'œuvre d'artistes qui ne sont pas des artistes attiques. Mais ce qu'on a pu connaître aussi par les trouvailles qui ont été faites ailleurs que sur l'Acropole, c'est que le sourire existe également un peu partout où il y a des Grecs et où ces Grecs ont créé des visages humains, eh bien, le sourire se retrouve. Donc, l'Acropole d'Athènes est évidemment une sorte de conservatoire particulièrement précieux de ces visages, mais il y en a partout, des visages souriants, dans toute l'extension géographique du monde grec, depuis ce qu'on appelle la Grèce de l'Est, la Grèce d'Asie, jusqu'à la Grèce de l'Ouest, c'est-à-dire la Grande Grèce.
Alors, cet art grec archaïque avait-il subi différentes influences d'autres mondes, justement?
Bien sûr, madame. Le miracle grec est une idée qui n'est plus soutenue maintenant. Il est évident que l'art grec a été fécondé de toutes sortes d'influences sur lesquelles on peut dire mille choses, bien sûr. Mais alors, pour ce qui est du sourire, on a pensé que ce sourire pouvait venir de visages d'Orient. D'aucuns ont pensé aussi à l'influence de l'Égypte. Il est évident que et les arts de l'Orient et l'art égyptien, la sculpture égyptienne, a joué un grand rôle, naturellement, dans l'élaboration de certains types statuaires qui sont devenus ensuite courants dans l'art grec.
Alors, vous avez dit dans votre communication à l'Académie que l'abondance, la constance et l'intensité du sourire dans la plastique hellénique tout au long du VIe siècle avant Jésus-Christ font de ce trait un phénomène vraiment grec. Donc, vous insistez sur cette idée que le sourire est véritablement appartient à l'art grec archaïque. Après, on le trouve moins.
À l'intérieur de l'art grec, sûrement, même, je ne sais pas si vous me le demanderez dans quelques secondes, mais ce sourire disparaît. Donc, ça veut dire l'art grec archaïque, oui, c'est quelque chose de tout à fait spécifique.
Donc, on repère un moment de naissance et un moment de mort, disons, de cet art grec archaïque.
On repère plus facilement un moment de mort qu'un moment de naissance. Le moment de naissance est plus difficile parce que quand on remonte dans les périodes un peu reculées, certaines physionomies peuvent apparaître souriantes à certains et à d'autres moins souriantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la fin, oui, ça c'est clair. Je ne dirais pas que cette interruption a été brutale, mais disons que c'est au début du 5e siècle avant Jésus-Christ qu'on a vu petit à petit ces sourires s'éteindre.
Alors, ils vont être remplacés par quoi ? Par des moues boudeuses, par des visages tristes ?
Étant donné que ces visages semblaient privés de sourire à certains, puisque brusquement on ne les voyait plus, on a pensé justement à l'expression inverse du sourire, c'est-à-dire à la mauvaise humeur, d'où le surnom qui est resté à cette fameuse statue du musée de l'Acropole, qu'on a appelée la Corée boudeuse. Alors d'abord, étant boudeuse, à mon avis, elle n'est plus une Corée. Donc l'expression en elle-même
ne convient pas.
Cela dit, elle porte encore le vêtement des Corées. C'est-à-dire que
Comment est-il ce vêtement ?
Alors c'est un vêtement très riche, très orné, qui est composé de plusieurs pièces de vêtements. Généralement, il y a ce qu'on appelle la tunique, le chiton, et puis par-dessus, il y a un manteau qu'on appelle l'imation, qui est drapé de plusieurs façons. Là encore, on retrouve, vous voyez, je vous disais cela tout à l'heure du sourire, c'est-à-dire que le sourire unit et à la fois divise les visages de la même manière. Toutes ces statues ont à peu près toutes les mêmes composantes du vêtement, mais ce vêtement est chaque fois différent.
Ça, c'est merveilleux. Ça montre le talent, l'imagination,
absolument,
la création des artistes
exactement,
grecs.
Exactement, cette sorte de fantaisie dont ils étaient capables et qui faisait que chaque fois, c'était nouveau.
Alain Pasquet, on marque une courte pause musicale, si vous le voulez bien. Je vous propose d'écouter « The Shadow of Your Smile », que l'on peut traduire en français par « L'ombre de ton sourire ». Ça se prête à votre émission. C'est une chanson qui a été composée par Johnny Mandel et écrite par Paul Francis Webster. Elle était la bande originale du film « Le Chevalier des Sables » avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Et c'est une chanson qui a obtenu Oscar et Award dans les années 65-66. On en écoute quelques extraits et on se retrouve tout de suite après avec vous. Nous revenons dans notre studio avec Alain Pasquet, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui nous fait rêver sur les Corées, ces jeunes filles archaïques, grecques. Alors, j'ai cru comprendre dans votre communication, Alain Pasquet, que vous insistiez sur une idée, qui me semble votre idée forte, ce sourire ne traduit pas un état d'humeur ou un état psychologique. Alors, que traduit-il ?
C'est une grande question de savoir, et ce n'est pas maintenant que je vais la résoudre, de savoir ce que représentent véritablement ces jeunes filles. La question a été souvent posée par les savants, les spécialistes de la question, mais quelle qu'elle soit, je ne crois pas que, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à exprimer ce scepticisme, je ne crois pas que les sculpteurs avaient l'intention de représenter une personne en bonne humeur, c'est-à-dire une personne dont...
Heureuse,
dont l'état psychologique était favorable. Je crois que ce que ces statues cherchaient à produire, c'est au contraire, elles s'adressaient à celui qui les regarde. C'est-à-dire que le visage n'est pas l'expression de l'état intérieur, mais c'est plutôt quelque chose qui est dirigé vers le spectateur. Et ça, je citais, je crois, au début de mon intervention, une petite phrase de Malraux. Malraux, quelque superficiel que soit de temps en temps, enfin, sa manière de présenter les choses, a très bien senti que ce retroussement des lèvres dont il parle et qui annonce l'Odyssée, ou qui suggère l'Odyssée, comme il le dit, s'adresse à celui qui le regarde. Et ça, je crois que c'est tout à fait juste.
Alors, si vous me le permettez, je vais lire ce court passage et vous m'autorisez à le reprendre de votre communication. Le sculpteur d'une Corée archaïque n'a pas pour but de créer une forme humaine qui révèle un caractère ou un état psychologique passager ou non. L'intériorité n'est pas ce qu'il veut exprimer. Ce qu'il désire, c'est faire que l'objet qu'il crée à l'image d'une jeune fille ait l'aspect extérieur le plus agréable à contempler. Il ne cherche pas à sculpter une jeune fille heureuse, mais à rendre heureux celles et ceux, dieux ou mortels, qui regardent la jeune fille de marbre que son ciseau a créée. C'est peut-être ce que veut dire André Malraux dans le prolongement de la réflexion que je citais en commençant quand il ajoute que le sourire grec, à la différence d'autres sourires, s'adresse à celui qui le regarde. Et donc c'est pour nous que le sculpteur, pour notre bonheur à nous, que le sculpteur a créé ces visages souriants.
Oui, enfin pour nous et aussi et surtout pour les dieux, pour la divinité à laquelle l'objet est donc est dédié. Il ne faut pas oublier que les Grecs appellent une statue agalma, agalma qui signifie en grec objet destiné à faire plaisir. C'est-à-dire que la statue, donc l'offrande d'une statue, l'ex voto, est une offrande destinée à provoquer, donc, j'allais dire, la joie, la satisfaction. Donc, comment produire cette satisfaction mieux qu'en faisant que tout est en beau? C'est-à-dire que aussi bien la jeunesse, pour les hommes, un corps avec des muscles parfaits, pour une jeune fille, donc un vêtement à la fois riche, orné, plein de délicatesse. Et pour le visage, comment le visage est-il le plus agréable que lorsqu'il est en sourire, si je puis dire? Vous voyez, c'est ainsi en tout cas que les artistes archaïques l'ont pensé.
Donc ces artistes voulaient nous faire voir la vie en beau. C'est tout de même une jolie pensée et nous les en remercions quelques siècles plus tard. Croyez-vous que les artistes aujourd'hui aient toujours ce même souci? Vous ne vous prononcerez pas, je le sens.
Non.
Monsieur Alain Pasquier, finalement, pour vous, quel est le plus beau sourire de la Grèce antique? Quelle est la statue que vous aimeriez avoir chez vous tous les jours pour la contempler? Vous l'avez peut-être d'ailleurs en reproduction.
Non, ça c'est toujours la question redoutable, madame, parce que vous savez...
Il vous faudrait une collection.
Oui, quand on travaille sur ces choses, sur ces statues, sur toutes ces œuvres d'art, et qu'on vous demande quelle est celle que vous préférez, c'est quelque chose qui vous paraît vraiment impossible.
Impossible de répondre.
Il y a des sourires merveilleux. Traverser la Seine, aller voir celui du cavalier Rampin, cette tête de cavalier qui est dans la salle archaïque et qui est une des merveilles, sans doute, de la création archaïque grecque. Mais bon, n'importe quel musée qui contient justement ces statues archaïques vous donnerait à admirer des sourires qui sont d'une délicatesse inouïe.
Alors, autre petite question piège, vous me pardonnerez. Est-ce que vous avez retrouvé aussi ces sourires chez les Étrusques, dont vous êtes aussi un spécialiste, et chez les Romains? Ou est-ce que c'est véritablement, comme vous l'avez dit, limité à cette période de l'art archaïque grec?
Oui, c'est limité à cette période de l'art archaïque grec. Ça ne se retrouve pas dans l'art classique grec, justement, non plus que dans l'art hellénistique. L'art hellénistique exprime plus souvent la douleur que le plaisir ou le bien-être. Mais dans l'art romain, non. Les Romains ne font pas appel à ce genre de motifs. Si, bien sûr, dans l'art étrusque, on retrouve beaucoup de visages souriants, c'est précisément parce que les artistes étrusques se sont nourris aux sources de l'art archaïque grec. Alors, peut-être, là, je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien, je ne suis pas étruscologue, mais sans doute, l'expression de ce sourire grec s'adaptait-il particulièrement bien à leur propre manière d'exprimer les choses. Mais il est sûr que l'art étrusque a beaucoup puisé dans les formes de l'art archaïque grec, et y compris le sourire, bien sûr.
Merci beaucoup Alain Pasquier de nous avoir fait partager avec le sourire justement cette communication que vous avez donnée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je crois que vos confrères l'ont beaucoup appréciée. Elle était accompagnée évidemment de nombreuses reproductions que l'on pouvait voir sur l'écran. On n'en mettra qu'une ou deux sur le texte de Canal Académie pour avoir tout de même une idée de ces magnifiques sourires décorés. Merci, peut-être à une autre fois dans une autre émission.
Merci madame.